Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Silence en joueur, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de poulpes. C'est ça, on a fait le bilan.
Il y a quelques poulpes.
Il y a quelques poulpes. On va parler de Save Me, Mr. Taco. On parlera de Call of Cthulhu, de Do Not Feed the Monkeys et de Lego DC Villains, quelque chose dans le genre.
Ah, c'est ça.
Des Lego. Et le reste du programme, vous le connaissez, le com des coms et évidemment la chronique jeu de Jérémy Klitzkin. Et puis voilà. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, les deux chroniqueurs. Les deux piliers de Silence on joue. Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît Gonin, décroissant, bonjour.
Je tenais à dire que je préférais l'appellation de mur porteur. C'est plus.
De mur porteur, c'est bien.
Un pilier, un mur porteur.
Je le note. Le mur porteur, c'est pas mal. On commence avec toi Patrick, ouais. Avec de la VR.
Eh ben oui, le petit moment VR qu'on essaie de faire systématiquement.
Le VR moment.
Exactement, dans chaque émission. Bah, là, la rumeur qui a un petit peu secoué les réseaux sociaux cette semaine, ce sont ces images volées qui ont fuité, qui ont été reprises, je crois, par le site Upload VR, d'un casque chez Valve, d'un casque de VR chez Valve, qui est voilà, un prototype qui a fuité en images. On voit un casque ouvert, on voit quelques infos qui sont sorties aussi de cette source un peu mystérieuse qui nous parle de quelque chose d'assez solide en termes de techno. On nous parle d'un champ de vision de 135 degrés qui est un petit peu plus important que ce qu'on a sur les autres configurations, d'une résolution graphique niveau Vive Pro et puis de capteurs intégrés. On voit qu'il y a des petits systèmes de caméras intégrés, ce qui nous amène à penser qu'il n'y aura pas de capteur dans la pièce mais que tout se fera à l'intérieur du casque. C'est la dernière tendance aujourd'hui. C'est d'avoir tout intégré dans des machines qui permettent d'avoir une configuration plus légère, une utilisation plus simple.
Et certains casques ont même carrément la puissance de intégré. Ordinateur
alors là,
dans le casque.
Là, je ne crois pas que ce soit le cas. Alors, on est vraiment sur une configuration PC, donc avec une machine de guerre derrière. Mais en tout cas, évidemment, Valve et la réalité virtuelle, ça paraît évident. Ça paraît évident, mais ça ne s'est pas encore fait. Ils travaillaient avec HTC jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, ça c'est la rumeur, ça fait beaucoup parler, on a vu les photos de ce prototype, mais surtout l'autre rumeur qui est accolée à ces images du casque, c'est la grosse rumeur d'un épisode de Half-Life qui serait pensé pour la réalité virtuelle. Alors pas forcément Half-Life 3, évidemment, qui est une espèce de jeu qu'on ne verra certainement jamais, je pense que ça restera un mythe. Je pense que ça serait plutôt une expérience de réalité virtuelle qu'on
voilà, genre un Half-Life épisode quoi.
Enfin, on parle d'un préquel, c'est la grosse encore une rumeur. Hein. C'est évidemment quand on parle Half-Life, il y a toujours des rumeurs. Il y a toujours là ce qui tourne pas mal, ce serait l'idée d'une préquel de quelques heures, évidemment, hein, format VR, donc en vue subjective. On peut faire confiance à Valve, ils ont le savoir-faire, ils ont les moyens pour faire quelque chose de sérieux.
Mais tu l'as dit, Valve travaille sur la VR depuis longtemps et en fait c'est pas le premier prototype. Valve, on en a déjà entendu parler à plusieurs reprises. Brendan Eribe, donc qui est aujourd'hui l'ex PDG d'Oculus, qui était à la fondation d'Oculus, d'Oculus. Brendan Eribe, ça a été qui s'est barré le mois dernier, je crois. Il y a un mois et demi peut-être d'Oculus, ça a fait
qui a lâché
un peu
ses
les
projets.
A priori sur un fond de désaccord parce que Oculus, Facebook donc veut se concentrer sur Oculus Quest. Donc leur prochain casque autonome, là comme tu disais, avec l'ordinateur intégré en fait quelque part, qui serait en parallèle avec l'abandon d'un Oculus Rift 2,
donc plus costaud
avec évidemment. Meilleure résolution, meilleur angle de vue, etc.
Une autre vision de l'avenir de la VR.
Voilà,
avec
ces deux visions,
meilleur écran,
voilà, deux visions qui s'opposent. Enfin, le côté très cher, haut de gamme, élitiste,
compliqué à mettre en place avec les fils et tout ça.
Surtout ce départ, je pense, qui fait aussi suite au départ des gars d'Instagram et de WhatsApp, et qu'en fait il y a beaucoup de dissensions entre Facebook et les gens qui ont
racheté. Bien sûr,
c'est évident.
Mais ouais. Juste pour raconter que ouais. Brendan Eribé avait déjà raconté que Brendan Eribé était sujet à la cinétose, donc au mal de mer.
C'est super parce que ils vont s'occuper de ce problème.
C'est rigolo.
Et il racontait que la première fois. Mm-hmm. Alors que l'Oculus Rift prototype existait déjà, ouais. Il avait expliqué que la première fois qu'il avait fait une expérience VR sans cinétose, c'était chez qui ? C'était chez Valve pour le prototype, depuis... dans une salle spécifique avec des capteurs et tout ça. Il avait raconté qu'il avait eu sa première expérience VR sans cinétose chez Valve pour dire que c'est pas... Voilà, ils travaillent sur le hardware VR depuis très longtemps.
Ce qui veut dire aussi que ce qu'on a vu passer cette semaine, peut-être qu'on le verra jamais. C'est peut-être du tout travail de recherche, développement chez eux avec des prototypes. En tout cas, ils sont dans la course et ils surveillent. Et ça me paraît pas très compliqué pour eux d'appuyer sur un bouton et de lancer un casque. Ils ont déjà eu du hardware, les Steam Controllers, etc. Ils savent faire ça. Ils sont même prêts à aller sur des produits assez chers, haut de gamme. Ils peuvent le faire. Donc, je pense qu'ils attendent peut-être le bon moment, avoir la bonne killer app.
Tu veux dire qu'ils n'ont pas de problème de moyens ?
Je pense que ça va.
Après, je pense pas que ça sera. Enfin, honnêtement, le marché de la VR à l'heure actuelle, on en a vu les limites d'un point de vue consommateur. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir, et je pense qu'il y a un marché, peut-être du point de vue des attractions, des salles de VR professionnelles. Voilà, exactement.
Des environnements particuliers.
Donc, bon, j'en attends pas quelque chose qui va débarquer sous les sapins à un Noël quelconque en 2019, 2020, 2021.
Mais il faut pas lâcher la VR, ça reste fascinant. Je sais, il y a encore toute une. Il y a encore plein de choses à faire.
C'est comme si Sharp là m'annonçait un nouvel écran 3D. Je serais en mode, oui, bon,
on reste un petit peu dans
le petit taquet.
Non, mais mais par contre, je crois en la VR d'un point de vue commercial.
Bien sûr, c'est fascinant. Mais après, voilà, il faut les applications et effectivement, les casques complètement autonomes, c'est une piste intéressante avec une facilité d'usage parce que là, on reste encore dans du fil et dans des configurations un petit peu complexes. On reste dans le hardware avec quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Je vous avais parlé de la Neo Geo Mini il y a quelques semaines qui est sortie. Et puis là, on a eu une annonce cette semaine. J'ai cru un fake au début quand j'ai vu les images passer d'une Neo Geo Mini spéciale Noël. En fait, toute rouge. Elle est LED. Elle est vraiment LED. C'est vraiment étonnant. Comme ça sort juste après la première version japonaise puis internationale qui était sortie il y a quelques semaines. Ça arriverait avec, je crois, 48 jeux. Donc il y a 9 jeux de plus par rapport à la version d'origine. 2 manettes inclus. Toutes les prises qui n'étaient pas dans la version originale. On n'a pas encore de prix. Ça risque de faire mal à mon avis.
Tu l'as pas préco.
Non. Mais là vraiment. Mais
c'est là où t'as pas le nez creux. Elle est tellement moche que personne ne va l'acheter.
Sûrement.
Et dans 15 ans, elle vaudra une fortune.
Elle est toute rouge avec déco de Noël et puis les boutons dorés. C'est très très spécial. C'est vraiment très très spécial. C'est vraiment surprenant. Je comprends pas trop, surtout la logique, quoi. Quelques semaines après le lancement de la version originale qui parlait aux fans. Donc, du coup, les fans, est-ce qu'ils vont. Ils vont pas repasser à la caisse forcément. C'est très bizarre. Et puis, petit mot sur des dernières adaptations de jeux en film. On a eu des visuels qui sont sortis, une bande-annonce de Pikachu, détective.
Ça fait
bizarre.
Moi,
je trouve que ça marche plutôt bien. Je sais pas ce que toi Corentin, qui est bien porté sur les Pokémon.
Il m'a fallu une nuit pour le digérer quand
même. Ouais, mais une fois la digestion passée, c'est comme la Neo Geo Mini, une boîte de chocolat, faut digérer. Puis après,
il m'a fallu une nuit pour le digérer, mais non, c'est bien, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt pas mal, et surtout, ils partent dans un univers donc détective Pikachu qui existait déjà via des jeux vidéo. Pikachu parlait déjà avec une voix qui était déjà grave, donc
grosse
c'est ce qui avait un peu choqué tout le monde. Mais là, en plus, c'est Ryan Reynolds, je crois, qui fait le doublage.
Oui, il fait le personnage.
Voilà. Et je trouve qu'il campe plutôt bien le Pikachu un peu.
Réaliste, ils vont sur du réaliste.
Il y a ma compagne qui a un avis sur la question. Mais enfin, Pikachu, c'est une souris, il devrait avoir le poil ras. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et oui, moi aussi, je trouve assez mignon. Moi, j'ai plus de mal avec les Pokémon un peu plus méchants, qui ont un look très réaliste, un peu dur. À part ça, je suis très content en fait qu'ils se soient emparés d'un univers, qu'ils en aient fait un petit peu quelque chose de personnel et qui en même temps respecte l'œuvre de base. Donc, curieux. Honnêtement, ça a l'air de bien partir.
Et moi aussi, je trouve que ça part plutôt bien. À l'inverse, par contre, de Monster Hunter, on a les premières photos du tournage du film Monster Hunter tiré donc de la fameuse série qu'on ne présente plus de chez Capcom. C'est très perturbant. On est pareil sur un parti pris photoréaliste, on dirait un film de guerre contemporain. On voit pas trop à quoi ça va rimer. Est-ce que le film va commencer dans le monde d'aujourd'hui contemporain en pleine guerre? On ne sait pas trop. En tout cas, ça fait un peu peur.
Je m'en fous, il y a le teaser de Toy Story 4 qui est sorti.
C'est vrai.
Ah, que j'ai pas encore vu.
Avec une fourchette en plastique.
J'ai pas encore vu.
Ça n'a aucun lien avec les jeux vidéo.
Non, c'est vrai.
On touche au sacré avec Toy Story. Ah, mais quand même, premier film en 3D à l'époque qui avait vraiment.
Moi, je suis hypé, je crois que j'y ai jamais. de mémoire, il n'y a pas de bande-annonce.
Puis là, il y a toutes les bandes-annonces de Creed 2 qui sont tombées, le film sort aux US. Mais on ne va pas revenir là-dessus encore une fois. Voilà.
Avant de te laisser la parole, Corentin, j'ai calculé, vous vous rendez compte, non, ça, je fais une aparté comme ça, on ne fait pas assez d'aparté, non, sinon on joue. C'est la, normalement, alors ça va être, en tout cas sur les archives plus disponibles de Silence on joue, c'est la 390e émission.
Ouh.
Ouais, celle-là, là, celle qu'on est en train d'enregistrer. 390e, alors j'ai fait une sorte de calendrier en prévoyant quand même qu'on ne va pas sortir dans les deux semaines de Noël. Ça nous amène à une 400e aux alentours du 8 février.
Ah.
7-8 février, enregistrement 7, publication 8.
Et donc une émission avec 400 invités.
Au minimum. Minimum. Non, il faut, je me demande ce qu'on va faire. Enfin, tu vois, je me pose des questions. Alors, autant vous dire qu'on est un peu, tu vois, pour louer le Zénith, je crois que c'est pas trop possible. On n'est pas trop dans le timing. Bercy non plus. Alors,
sinon, au lieu de chercher un lieu, on peut chercher au niveau temps et on fait une émission de 400 heures. Qu'est-ce que t'en penses ?
Merci Corentin. Ouais. Merci. C'est... Marathon,
ouais,
bien sûr.
Un marathon Twitch.
Ouais.
400 minutes déjà, 400 minutes.
Avec, chez toi, Erwan, avec ta belle connexion.
Ouais, je crois qu'on ne pourra pas arriver au niveau du Z-Event.
Ah oui, j'avais oublié que tu as une connexion 400K, pardon.
Ouais, ça va. Non, et puis bon, il y a le Z-Event qui est passé avant.
C'est vrai,
donc,
on pourra pas...
Félicitations, on peut en parler hein, quand
c'est
même.
Vrai. Plus d'un million.
Plus d'un million d'euros récoltés pour MSF quand même par Zerator et ses complices, les casteurs et streamer star en France. Super orga, ouais. Super événement comme l'année dernière. Hein,
c'est le deuxième édition ?
Troisième édition. L'année dernière, c'était un peu plus pro que l'année précédente. Cette année, c'était vraiment pro. Ouais. Et pour le coup, bah là, on peut que se féliciter d'avoir... En plus, y a, je sais pas si vous avez vu des images en live. C'est des, avec MV, avec...
Voilà.
Tu
dis MV ?
MV, pardon.
C'est pas grave.
Non, mais oui, c'est pardon. MV et tous les autres. Il y a une ambiance, il y a un truc comme ça, super bon enfant, très...
J'ai juste maté des replays de MV, là, il a publié toute première game Fortnite streamée. Du coup, il fait n'importe quoi, il finit top 2, c'est ridicule. mais du coup, ouais, il y avait une ambiance et surtout, il y a vraiment une idée sympa, quoi.
Ouais.
C'est pas juste un rip-off de la GDQ ou ce genre de choses, mais on a vraiment quelque chose d'assez original qui fonctionne, enfin, qui dépassait le million au bout de 3 éditions.
De don, hein, donc,
c'est mieux que la GDQ. Hein, la GDQ, combien de temps ils ont mis avant d'avoir un million de dollars? Donc, bravo à Zerator pour l'organisation. Et c'est cool parce que là, ils ont en plus une belle couverture médiatique en France. Donc voilà, c'est bien. Ça prévoit que du bon pour l'année prochaine. Je pense que l'explosion, c'est l'année prochaine. Ça risque d'exploser très très fort.
Mais donc, reste cette question. Qu'est-ce qu'on fait pour la 400e de Silence on joue ? Allez, participez, c'est les forums officiels de Silence on joue. Vous connaissez l'adresse. On attend les propositions. On attend la discussion à ce propos. Corentin, donc oui, à toi.
On a pris un peu de temps. Je vais dropper une des trois news que j'avais prévues. donc, je vais commencer par une news, pas super réjouissante, mais on va en parler quand même. Donc il y a un couple en Arizona qui a été condamné à payer 12,2 millions de dollars de dommages et intérêts à Nintendo, tout simplement parce que c'était les possesseurs de loveroms.com et de loveretro.co, qui étaient donc des sites de téléchargement de ROM, de Super NES, NES, Nintendo 4, enfin des consoles rétro, quoi. Et donc vous savez, en juillet dernier, ces sites n'avaient pas été takedown, mais ça avait été plutôt mis en veille, enfin mis en repos par les possesseurs de ces sites-là, parce que Nintendo a fait toc-toc, c'est le service légal, on aimerait que vous arrêtiez de faire ça immédiatement. Et du coup, ils ont été condamnés à cette très lourde amende qui est ridicule, parce que vraiment, c'est un couple, quoi, vraiment, c'est un couple qui gère ça. Alors,
S'ils se faisaient de l'argent ou pas ?
Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je crois que ça ne change pas grand-chose au niveau des dommages et intérêts, quoi qu'il arrive.
La question, c'est est-ce que ça correspond d'une manière ou d'une autre à la somme qu'ils auraient pu percevoir ? Je pense pas. Mais...
Je pense qu'ils ont touché de l'argent simplement parce qu'ils ont créé une entreprise pour gérer ces sites-là. Donc, il y avait une boîte. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'amende est aussi lourde. Bien qu'aux États-Unis, je crois qu'il n'y a pas vraiment de proportionnalité. Tu peux prendre vraiment très cher à ce niveau-là. C'est vrai que dans d'autres cas de figure, il y a eu des accords à l'amiable. Après déclaration comme ça de sommes immenses, donc il n'est pas nécessairement obligatoire que ce couple-là va payer une telle amende, peut-être quelque chose de plus léger, surtout qu'ils ont vraiment, ils se sont rendus, quoi, vraiment, genre, on arrête, pardon.
Voilà.
Ils ont quand même pris une grosse amende, donc on va voir comment ça se résout, mais c'est vrai que, comme d'habitude, dans ces situations-là, et surtout aux États-Unis, on est sur des sommes vraiment très fortes.
Ouais, il y a une disproportion, en fait.
Ouais, absolument. Évidemment que ce qu'ils ont fait était illégal, et on peut après mettre sur la table tout le débat de l'archivage du jeu vidéo, qui n'est pas forcément très bien fait par les les éditeurs de jeux vidéo eux-mêmes. Mais peut-être que 12,2 millions d'euros juste pour avoir été des fans un peu trop engagés.
C'était du jeu NES, Super NES, c'est vraiment du fond. Enfin voilà, c'était des.
Il y avait des jeux de Sonic, ouais, c'est des vieux jeux quoi. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a un intérêt économique aussi aujourd'hui.
Sûr, surtout aujourd'hui. Avec la Switch qui accueille les jeux NES, etc.
Exactement.
Comme les Super NES.
En parlant de ça, il y a eu des mises à jour avec des nouveaux jeux NES, dont Metroid, qui ont été rajoutés. Donc profitez-en si vous êtes abonné au service online. Et ma deuxième news, qui est un petit peu plus sympa, c'est les Game Awards qui ont été annoncés. Enfin, les nommés aux Game Awards qui ont été annoncés. Devinez quel jeu a été nommé 8 fois. Oh là là, on se demande bien.
Red Dead Redemption 2.
Il a été nommé dans 8 catégories, dont le meilleur jeu, évidemment. Ouais. Et alors, moi, je voulais citer tous les meilleurs jeux parce qu'il y en a un qui me plaît beaucoup, donc Red Dead Redemption 2.
Essayez de trouver lequel.
Assassin's Creed Odyssey, God of War, Spider-Man, Monster Hunter World Céleste.
Monster Hunter World, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais.
Il
est bien, mais Game of the Year, quand même.
Mais il a plu au public occidental
C'est vrai que Céleste,
je suis trop content de voir Céleste dans cette sélection, justement. Honnêtement, il représente, quoi. Bravo Céleste. Ouais, ouais. Il est aussi cité dans 4 autres catégories, dont bien entendu meilleur jeu indépendant, mais aussi meilleur soundtrack, meilleur jeu impactful, le jeu qui permet de prendre conscience de certains problèmes de la société. Donc, bien sûr, on peut aller sur le site de Game Award pour voter pour ses jeux favoris, puisqu'il me semble que toutes les catégories d'ailleurs sont soumises au vote du public. Il y a peut-être genre une pondération jury public, je sais plus trop comment ça se passe. Et quoi qu'il en soit, ça diffusé en France. Alors c'est le 6 décembre aux États-Unis et le 7 décembre chez nous à 2h30 du matin pour ceux qui ont envie de veiller pendant toute la nuit pour voir un petit peu le show. Parce qu'il y a des annonces en général dans les Game Awards.
À noter dans ces Game Awards que Dead Cells a été nommé plusieurs fois aussi, je crois deux ou trois fois.
Mais la sélection indépendante est craquée. Il y a Obradine, il y a The Messenger, il y a Dead Cells, Céleste.
C'est ce jeu de strat Into the Breach aussi. Dead Cells a ses chances. Que Life is Strange 2 est nommé deux fois meilleur jeu narratif et meilleur jeu impact aussi. Sur un seul épisode, quand même. Enfin, c'est quand même.
Je trouve ça un peu bon. Ah, il y a une catégorie qui me fait bien plaisir, moi, et je trouve très bien. C'est la catégorie du jeu déjà sorti précédemment, mais qui continue d'être mis à jour. Il y a No Man's Sky dedans et je trouve qu'il le mériterait, tu vois.
Oui, a priori, il a vraiment été amélioré. Il faut vraiment que je relance.
Et Rainbow Six Siege
aussi. Les jeux qui continuent d'être mis à jour. Et ça, je trouve ça super. C'est vrai que c'est du boulot, quoi. Et voilà, bon, ça fait plaisir de aussi montrer que y a des jeux qui sont maintenus par les éditeurs, alors qu'ils gagnent pas forcément beaucoup d'argent dessus. Alors, pour des. Comment ça s'appelle Rainbow Six, je pense quand même qu'il doit y avoir un petit peu d'argent qui doit être fait dessus. Mais voilà, ça, je suis content de voir qu'il y a aussi ça qui permet peut-être d'encourager les éditeurs, des fois, à mettre un peu l'argent dans leur jeu, à pas continuer à.
Bien sûr. Juste pour terminer là-dessus, ce qui est très impressionnant, c'est qu'on voit vraiment les deux catégories avec une super sélection, enfin une sélection de très haut niveau à chaque fois sur finalement les blockbusters et les jeux indés. Et on voit qu'il y a cette sélection à travers toutes les sorties indés de l'année, qui est d'un niveau absolument dingue, en fait. Dead Cells, Into the Breach.
On a une très bonne année indé.
C'est assez fou.
J'ai une théorie, moi. Il me semble qu'il y a genre 4 ans aussi, il y avait déjà Papers, Please, Undertale. Ouais. Et là, d'ailleurs, Toby Fox a ressorti un jeu, on va en reparler dans une prochaine émission. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est cyclique, en fait. Ces mecs-là, en fait, le temps de se reposer, de relancer un projet, ils ressortent toute une vague de. Non, et je pense qu'on aura des vagues de créateurs comme ça, avec des années plus ou moins riches en fonction de est-ce qu'ils ont eu le temps de se reposer ou pas.
Slay the Spire n'a pas été nommé.
Il n'est pas fini. Il n'est pas
non,
sorti.
C'est vrai. On attend 2019. Bon, bref, 18 minutes. Hein, vous ne vous rendez pas compte, mais quand même. Et on arrive au com des com. Hein, voilà. Mais oui. Et on a 4 jeux après. Alors, je ne vous raconte pas. On avait prévu 5 jeux au début. Hein, mais bon, bref. Com des com rapides sur, évidemment, Obradine, qui a fait beaucoup parler avec Cytoplasme. Donc, sur Obradine, le graphisme est une sacrée baffe parce que non seulement il fait hommage au dessin monochrome des ordinateurs du début des années 80, mais il rappelle également les gravures et estampes du 18e et 19e siècle, ce qui est vraiment adapté au sujet. Il faut aussi souligner le travail de mise en scène, la première scène de flashback où apparaît figé devant nous ce personnage qui semble nous tirer dessus. Ça fait un sacré choc et il y en aura plein d'autres. Sur la genèse du jeu et sa scénarisation, je conseille le très bon papier de Rock Paper Shotgun et comment le gameplay autour du livre a fini par s'imposer à l'auteur. Je rejoins les bémols et la petite déception de la fin du jeu. Il manque quelques explications car certains points importants de l'histoire sont difficiles à pas comprendre. J'ai beau avoir fini le jeu, identifié tous les personnages et leurs morts, les mobiles de certaines personnes me restent obscurs. Oyoyo aussi très enthousiaste, énorme coup de cœur en ce qui me concerne pour Obradin. Et c'est quand même assez dingue de sortir un jeu aussi singulier en 2018, direction artistique dingue avec ses graphismes Macintosh. J'ai joué pour la première fois sur une de ces machines, Madeleine puissance 1000. Ambiance fabuleuse grâce notamment à cette musique composée par Lucas Pope. Sa BO était déjà un coup de maître dans Papers, Please. Et quel bonheur de se triturer les méninges pour réussir à coller un nom sur chaque visage. Il y a longtemps que je n'ai pas été happé à ce point par un jeu. Entre deux sessions, je ne pensais qu'à mon enquête. Je me repassais mentalement les scènes. Je planifiais celles sur lesquelles j'allais revenir pour réessayer d'élucider telle ou telle mort. Et ça marchait bien en plus. La gratification à chaque validation est d'une puissance qui rend accro presque immédiatement. Et fini en signalant que effectivement, il est aussi déçu par la fin, mais s'il y avait un Obradin 2 avec 60 nouvelles morts, il retomberait dessus avec
sur ce qu'il
même
dit,
bonheur.
Que quand il dormait, il réfléchissait à son enquête, mais je le rejoins à 100%, c'était pareil pour moi la nuit. Je me disais, attends, comment je vais faire pour l'identifier lui? C'est si étonnant. Hein. Ouais. Mais les jeux qui arrivent à te poursuivre après avoir éteint le jeu, c'est en général le signe qu'ils t'ont marqué et que c'est des bons jeux. Quoi.
On va en parler d'un tout à l'heure.
Oui, des jeux singuliers. Oui, il a dit jeux singuliers, tu vas voir. On va en parler d'un autre. Là. Il est un peu singulier aussi.
Un peu singulier. Mais on va commencer le programme Poulpe de cette émission avec Save Me, Mr. Taco. Alors c'est un poulpe. Ouais. Dis-nous plus, parce que donc il y a ce, on est sur du platformer, on est sur de.
Ah bah là
de quoi,
on est sur de l'hommage complet à une période du jeu vidéo,
oui,
de
ça.
La Game Boy, ouais. des jeux Nintendo de cette époque-là, et principalement et la plus grosse inspiration Kirby. Kirby. Voilà, parce qu'en plus Taco qui est une espèce de boule, hein, un petit poulpe, ne peut qu'évoquer la boule rose de Nintendo. Alors avant tout, il faut que j'explique un peu de contexte parce que oui. Ce jeu-là, je suis pas objectif complètement. Sur ce jeu-là. Donc,
disclaimer.
Bonjour Chris. Chris Galati, Christophe Galati, qui est donc le créateur de ce jeu. Donc salut, je sais que tu écoutes. Et désolé d'avance pour ce que je vais dire sur le jeu, car j'ai évidemment plein de réserves. Mais j'aimerais d'abord rendre hommage à Christophe qui a 24 ans, ce petit bâtard, et qui sort un jeu à lui tout seul. Non, mais il faut dire les choses. C'est quand même un petit exploit à cet âge-là de sortir un jeu. Alors, pas complètement tout seul, il est quand même aidé d'un compositeur que j'aimerais aussi saluer, Marc-Antoine Archier, qui a créer les musiques qui sont d'ailleurs plutôt réussies, on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, juste j'aimerais souligner à quel point sortir un jeu tout seul, surtout à cet âge-là, c'est compliqué. Pour mettre un peu de contexte, c'est un projet qu'il a emmené dans ses bagages d'étudiant une fois avoir terminé ses études à Lizarte. Et il a dit, bah tiens, j'ai commencé ce projet, je vais le terminer, essayer de le sortir tant qu'à faire. Ça lui tenait vraiment à cœur. Lui qui voulait rendre hommage à ces jeux qui ont un petit peu marqué sa jeunesse, en l'occurrence les jeux des consoles Nintendo de cette période-là. Et c'est pour ça que quand on va jouer à Taco-san, qui est donc un platformer dans la plus pure tradition de ce qu'on avait à cette époque-là, on a aussi plein d'autres références, pas seulement à Kirby, mais aussi à Zelda, à Metroid. Il y a des clins d'œil plus ou moins appuyés à d'autres titres, même à des jeux indépendants sortis à la cœur. On sent qu'il y a il y a du cœur qui a été mis dans ce jeu. Donc, si on doit traiter l'histoire qui est mise en avant dans le jeu, il y a une véritable volonté de mettre en avant une histoire. Grosso modo, il y a une guerre entre humains et poulpes. Le poulpe qu'on contrôle décide de se rebeller, va sauver une humaine et donc va un petit peu trahir sa propre patrie. S'ensuit une histoire un petit peu à Game of Thrones avec plein de royaumes qui vont se taper dessus. Mais pour être tout à fait honnête, c'est un peu compliqué à suivre, surtout dans un jeu de type plateforme comme celui-là où finalement, c'est pas nécessairement ce qu'on recherche le plus. Et du coup, c'est un peu compliqué à suivre. Donc, on va plutôt se concentrer sur la plateforme au départ et sur les graphismes parce que vraiment, ils sont assez propres, assez léchés. On est sur un jeu Game Boy avec du pixel art à la Game Boy, palette de couleurs grise, même si on peut choisir plein de palettes de couleurs qui sont mises à disposition. Il y a quelque chose qui a été très poussé sur l'aspect nostalgique. On peut même réduire le format d'écran façon carré, un petit peu comme si on jouait sur une Game Boy finalement. D'ailleurs, le jeu a été conçu entièrement comme ça. On est sur la nostalgie jusqu'au bout. Et ça, on va dire que c'est la caractéristique qui a été la mieux réussie de ce jeu-là, puisque en effet, quand on lance le jeu, surtout sur Switch, ça fait son petit effet. Hein. On est là en mode, attends, je suis vraiment en train de jouer à un jeu portable, j'ai de nouveau 10 ans, ça se passe comment, c'est sympa et tout. Ah, faut que je me mette sous la lumière pour jouer. Non, c'est bon, ça c'est bon, la Switch gère maintenant, il y a le rétroéclairage. Donc ça, vraiment, il y a un petit côté cool.
T'évites la lumière maintenant même.
Ouais, t'évites pour éviter les reflets, absolument. Ça, on peut dire qu'il y a une vraie réussite graphique à ce niveau-là, qu'il y a quelque chose qui est réussi même dans les décors de fond. Il y a un esprit qui a réussi à être capté par les graphismes et qui retranscrivent aussi un gameplay qui se superpose à un gameplay qui finalement le rend assez jouable et immédiatement reconnaissable pour ceux qui ont joué à la Game Boy à l'époque. Ensuite, on arrive sur la plateforme. Donc, on commence à jouer. On est sur un platformer 2D tout à fait classique qui s'apparente à du Kirby, sauf qu'on ne va pas se mettre à voler n'importe où. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte peut-être des problèmes de Tako-san. Donc, Tako-san, il peut, grosso modo, il a deux pouvoirs. Enfin, il peut sauter très haut déjà et il peut tirer de l'encre, ce qui va figer ses ennemis un peu comme dans un Metroid, et on va pouvoir se servir de ses ennemis comme plateforme. Et donc c'est la mécanique principale de ce jeu-là, c'est qu'on tue pas vraiment ses ennemis, on les fige pour passer. Et le problème, bah, c'est que cette mécanique-là, t'as beau la décliner autant que tu veux, elle est pas ultra. On peut pas faire énormément de choses non plus avec. Donc on peut en effet sauter sur les ennemis pour atteindre une plateforme un peu en l'air. On peut se créer des ponts. Et puis ça s'arrête un peu là, quoi. Du coup, forcément, le level design va pas pouvoir se baser uniquement sur cette mécanique-là, et on va se rendre compte qu'au fil des niveaux, il y a un petit manque d'inspiration, surtout sur le long terme, des niveaux qui se ressemblent un peu tous dans leur conception. Ouais. Et très très difficile pour moi de me souvenir d'un niveau en particulier, quoi. Pour moi, c'est un peu un marasme de différents niveaux, avec toujours finalement les mêmes gimmicks, qui est de si t'arrives à figer cet ennemi suffisamment haut, tu pourras atteindre une plateforme suffisamment haute sur laquelle il y a un bonus, une vie supplémentaire, de l'encre en réserve ou des gemmes, les pièces, hein, c'est l'équivalent des pièces, t'en as 100 à une vie supplémentaire. Et je pense que c'est pour moi le principal défaut de ce jeu-là. C'est le manque de variété sur le long terme, d'autant qu'il est plutôt long pour un jeu de ce type-là. On parlait de Kirby Dream Land, qui était peut-être un des jeux qui est connu pour être particulièrement court. On peut le finir en une heure. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lancé le jeu, j'étais plutôt dans un état d'esprit en mode « Ah, cool, une petite friandise qui va durer 5-6 heures, quoi, pas plus. » Parce que voilà. Puis en fait, là, j'en suis
ça
à...
Ça dure plus
que ça. Ça dure ultra longtemps, ça dure. Enfin, alors là, je suis allé une soirée avec d'autres gens qui avaient fini le jeu. Ils ont, de leur côté, et le jeu est difficile. Ils ont dit, ah, moi, il m'a fallu 30 heures. Et Christophe lui dit, non, il faut 15 heures. Mais voilà, ça reste très long pour un jeu de ce type-là. Et le manque de variété dans le level design se ressent d'autant plus sur la longueur, sur la longueur, quoi. Alors. Évidemment, je sais quel a été le raisonnement de Christophe là-dessus. C'est pas grave, je vais mettre une histoire fascinante. Je vais faire une histoire qui implique, et comme ça, ça va permettre d'avoir un jeu qui est cool aussi sur la longueur. Sauf que l'histoire, malheureusement, elle a un petit peu du mal à se mettre en place. On est un peu perdu entre les différentes factions qui créent ce monde-là. Pour être tout à fait franc, c'est pas ultra bien écrit non plus. Parfois même, il est compliqué de savoir qui parle. Il y a des boîtes de dialogue, mais il n'y a pas de déplacement de la boîte de dialogue qui permettrait de savoir qui parle. Du coup, des fois, je me rends compte que j'ai cru que quelqu'un parlait, c'était quelqu'un d'autre. Du coup, ça n'aide pas du tout. Les personnages ont tendance un peu à se ressembler. Du coup, ça donne beaucoup de difficultés à rentrer dans une histoire. Et du coup, c'est pas ça qui va venir aider à avoir envie de jouer à ce jeu sur la longueur.
Et c'est vrai que, par exemple, 2018 a été une année particulièrement riche sur ce format de jeu, avec c'est vrai, une recherche de la variété. Hein. On en a parlé, que ce soit Céleste ou Dead Cells ou d'autres.
Questionner un genre.
Où on arrive, il y a cette question de relancer le jeu en manière cyclique. Enfin voilà, on est sur cette variation comme ça, très Mario, hein, dans l'idée d'à chaque nouveau monde, un gameplay différent, nouvelle découverte.
Ça fait un peu remplissage, non? Parce que tu me dis.
Non, alors c'est pas remplissage, parce qu'il y a du boulot. Il y a du boulot. Il y a tout un tas de niveaux qui ont été faits, tu vois.
De création, de nouveautés au fil du jeu.
Il y a assez peu de nouveautés. Alors, on parle quand même, il y a aussi une caractéristique assez importante de Tako qui est le fait qu'il ait des chapeaux. Il a des pouvoirs un peu comme Kirby finalement. Il a des chapeaux qui lui donnent différents pouvoirs. Donc, il va se retrouver par exemple avec une épée ou un parapluie au-dessus de la tête pour se protéger de certains projectiles, ce qui va rendre certains niveaux plus faciles. Il y a vraiment une très grande variété de chapeaux qu'on découvre au fur et à mesure du jeu. On peut les débloquer via des quêtes annexes, tout ça. Mais le problème aussi dans tout ça, c'est que ça n'apporte pas assez de variété. Et aussi, surtout, si avec ça, on pourrait dire, c'est un trip nostalgique qui traîne un peu en longueur, mais finalement, pourquoi pas certaines sessions, mais le jeu souffre aussi de défauts mais qui auraient pu être évités mais largement. Je prends un exemple qui va vous parler immédiatement. Le jeu ne freeze pas quand il y a un événement qui se passe. Par exemple, j'appuie sur un interrupteur, une porte s'ouvre à l'autre bout du niveau, la caméra bouge, le jeu ne freeze pas.
Ah, c'est-à-dire que l'action reste...
L'action continue.
Ah, ouh.
Et vous mourrez. Et vous êtes énervé, mais vraiment énervé. Il y a certains petits aussi imprécisions d'un point de vue du moteur physique. Par exemple, le taco va se mettre à rebondir dans les airs. Il va être arrêté dans les airs un petit peu sans qu'on sache vraiment pourquoi. Parfois, on va appuyer sur le bouton de saut, on va sauter une longueur et puis on va sauter une autre longueur sans vraiment savoir pourquoi. Sur les murs aussi, il s'accroche un petit peu. On sent qu'il y a une ou aussi d'autres trucs un peu plus général. Par exemple, il y a pas de. Alors ça, ils veulent rajouter. Donc quand tu auras des mises à jour, ça ira. Mais il y a pas de système d'indices qui fait que pour la première fois depuis très longtemps dans un jeu vidéo, je me suis retrouvé coincé à ne plus savoir quoi faire. Et je sais pas quelle est l'étape suivante, sans que rien ne me le dise. J'ai dû demander à Chris justement, qu'est-ce que je dois faire ? T'as ce qu'était, Chris. Et du coup, voilà. C'est, en fait, pour moi, et je vais finir là-dessus, ça sera ma conclusion qui va un petit peu englober le jeu, c'est que on a là un jeu qui est à la fois nostalgique et un petit peu naïf. C'est-à-dire qu'on a Christophe qui est plein d'amour pour ce jeu de cette époque-là et qui, en effet, moi aussi, je suis aussi rempli de nostalgie-là. Sauf qu'il y a eu 20 ans de jeux vidéo entre temps, et que ces 20 ans de jeux vidéo ont apporté aussi des améliorations de design, de philosophie, de qu'est-ce que devrait être un jeu vidéo, de est-ce que le joueur doit vraiment s'embêter à mourir en un coup alors qu'il y a des ennemis qui apparaissent par le haut et que c'est un petit peu frustrant, ce genre de choses. Et donc cette philosophie de jeu vidéo n'est pas du tout retranscrite là-dedans. Donc on est frustré comme dans un jeu rétro, mais le jeu rétro, on le pardonne parce qu'il est rétro et qu'il est sorti il y a 20 ans. Là, comme le jeu est sorti aujourd'hui, on se dit bah oui, mais le problème, c'est qu'il y a d'autres jeux qui sont sortis entre-temps. Il y a plein d'évolutions, il y a plein de réflexions qui ont eu lieu et des consensus qui sont maintenant mis en place et par les développeurs et par les joueurs et qui font que on accepte beaucoup moins finalement certaines choses dans le jeu vidéo. Et ce jeu, Taco-san, qui est rempli d'amour, mais on le sent qu'il déborde d'amour pour ce jeu vidéo de cette époque-là, semble anachronique alors qu'il est sorti en 2018. Et ça me rend un peu triste et malgré ça, ça reste un trip nostalgique sympa. Donc...
Non, mais il a sorti son jeu quand même.
Et il a sorti son jeu.
Et ça va.
Et je ne peux que me mettre dans ses chaussures. Un petit mot juste sur la musique qui peut paraître répétitive au début, mais sur le long terme, je trouve que les thèmes sont beaucoup plus variés et s'inspirent beaucoup de la musique classique. J'ai pu parler avec le compositeur qui m'a dit que c'est inspiré notamment des techniques de réduction dans la musique classique. Par exemple, quand on a un orchestre symphonique qui joue une pièce, comment la réduire pour un piano? Et bien là, il a un peu faire pareil et je trouve que ça se ressent. Il y a des fugues, d'accord, il y a des montées, il y a des choses vraiment bien et je trouve que la musique s'améliore avec le jeu, donc ça c'est vraiment un point positif aussi. Voilà, Taco-san, ça coûte 12,50€, c'est édité par Nicalis, c'est sur Steam et Switch. Bravo encore Chris.
Merci. Et donc on continue sur le poulpe.
Sur les poulpes.
On continue sur le poulpe.
Avec un poulpe avec, moins sympa quand même.
Ouais,
là,
moins sympa.
Pas la même ambiance.
Pas hyper cool.
Non,
le monsieur Cthulhu avec l'appel de Cthulhu avec Call of Cthulhu. C'est accueillant tout ça.
Oui, c'est très festif.
C'est festif.
Très festif.
On voit la boule à facettes là.
Ouais. Hein,
on la voit. Hein, l'ambiance.
Elle est très verte, très verte la chine. Ouais.
Très, très détendue.
Bon, non, forcément, non, oui, c'était pour rigoler. Mais bon, on sent déjà l'ambiance Lovecraftienne assez pesante. Tu y as joué, t'es le seul de nous trois.
J'ai fini.
Call of Cthulhu, Cyanide, Focus Home.
Ouais, alors un projet compliqué qui avait été commencé, je crois, chez Frogware, qui a évolué, qui a été repris par Cyanide, donc un projet un peu torturé. Lovecraft, c'est quand même un monument, Lovecraft. Hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, c'est vraiment, ce sont des lectures qui m'ont marqué profondément.
C'est surtout le premier jeu de rôle qui m'a marqué. Hein. C'est l'appel de Cthulhu. Hein.
Bien sûr. C'est la lecture. Moi, c'est vraiment les romans que j'en garde des souvenirs.
En fait, ça fait partie des livres que j'ai lus parce que je jouais au jeu de rôle.
D'accord.
J'ai C'est okay. Comme Moorcock, par exemple, avec Stormbringer. Enfin, bref,
c'est un univers, en tout cas, qui, même si j'ai pas du tout été en contact avec, m'a marqué quand même par sa singularité.
L'influence, et puis l'influence sur le jeu vidéo qu'on connaît depuis très très longtemps. En tout cas, ça pose toujours la problématique de la mise en image de Lovecraft. C'est-à-dire, quand on lit Lovecraft, on a une écriture très particulière. On va pas refaire le descriptif de l'œuvre de Lovecraft
avec
ici.
Cet adjectif que tu découvres en lisant Lovecraft qui est indicible.
Exactement. C'est toute la problématique d'ailleurs qui, mais tout, comment dire, tout projet de mise en image de Lovecraft se bute à ça, à cette problématique de comment on met sur un écran, avec des polygones ou des acteurs, si on fait analyse un film, des choses qui normalement ne sont pas montrables ou qui sont très difficilement
on est nécessairement dans l'interprétation. Voilà,
qui sont dans la description que fait très bien Lovecraft. Il le fait brillamment dans ses bouquins. Donc voilà, on revient sur cette problématique.
On est dans la réduction. Hein. Voilà.
C'est, oui, c'est voilà. Ça, c'est un petit peu. Ça.
Donc, alors là, dans ce jeu, donc on est sur du jeu d'aventure, on est sur du jeu d'aventure fusion. Hein, on est vraiment dans cette tendance aujourd'hui. On est avec un jeu qui profite de la licence Chaosium, donc qui est le Chaosium, donc c'est l'éditeur du jeu de plateau, du jeu de rôle, donc du fameux jeu de rôle Call of Cthulhu. Donc cette histoire, donc on incarne Edward Pierce, qui est un enquêteur. On est dans les années 20, donc on est vraiment dans le contexte Lovecraftien pur et dur, qui est amené, donc il galère avec ses enquêtes, il a un petit peu de mal à faire tourner sa...
On est dans le Massachusetts ou pas ?
On est à Boston. On est à Boston, oui. Et on va enquêter, justement, on nous confie une affaire pour aller enquêter sur Darkwater, une histoire de disparition et d'une peintre qui avait produit des œuvres assez bizarres avec des personnages à écailles, hein, évidemment. On est chez Lovecraft. Alors on va tout de suite, moi je vais situer, donc comme je disais, moi je l'ai fini hier soir, ce jeu. Moi je trouve que tout de suite on va passer au bon côté. Pour moi, la bonne chose, c'est que je trouve que les gens qui ont bossé dessus ont compris Lovecraft. Ils ont compris, on sent qu'ils ont respecté l'ADN de ce qu'est Lovecraft. Mmh. Quand on joue et qu'on apprécie un petit peu ces univers-là, je trouve qu'on ressent vraiment cette ambiance qui est difficile parfois à décrire. Il y a un malaise qui est tout le temps là. Ça suinte de partout, à chaque écran, On a l'impression qu'en fait les réalisateurs du jeu ont un peu coché toutes les cases de ce qui fait
des charges, en
le
fait.
Cahier des charges de ce qui fait l'ADN Lovecraft. Alors on est on arrive dans un port avec donc un port de pêche désaffecté. Il y a une ambiance délétère. On sent qu'il y a une malédiction qui plane. On sent qu'il y a une famille qui s'est approchée trop près de créatures monstrueuses au fond des mers. On sent que tous les gens autour de l'endroit sont contaminés par le mal. On sent que ça suinte de partout. Donc concrètement, on est sur donc du jeu d'aventure en vue subjective. On se balade dans des endroits, on va parler à des gens, etc. Et encore une fois, voilà, moi c'est ce qui m'a tenu dans le jeu, c'est cette sensation vraiment de, on respecte l'ADN de Lovecraft et de ces créatures de cette ambiance, de ce non-dit parfois, de ces ambiances visuelles, parce que je pense qu'il y a ça aussi qui ressort du jeu, c'est les réussites en termes d'atmosphère. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est on sent que dans les écrits, dans l'atmosphère visuelle du jeu, il y a cette sensation de capter vraiment ce que moi je ressentais en lisant les bouquins. Ce côté malaisant au contact des personnages, la maladie, la folie du héros aussi qui est mise en scène.
Ça, c'est la grande caractéristique, hein, de l'appel de Cthulhu version jeu de rôle, c'est cette caractéristique.
Ah bah
on sortait de milieu, hein, de jeu de rôle d'heroic fantasy avec intelligence, constitution, dextérité, force, etc. Et là, on fait l'appel de Cthulhu et on se retrouve avec la santé mentale.
Et oui, qui est importante. Et là,
elle diminue. Et là, elle peut pas remonter. Elle peut jamais remonter, la santé mentale. C'est une sorte de lente.
Mais c'est raccord avec les romans. C'est qu'on suit souvent un héros, entre guillemets, qui est pas vraiment un héros non plus, qui se frotte à des puissances qu'il dépasse complètement.
Ça va être un journaliste.
Et il est perdu. De toute façon, il peut pas lutter. Il peut à peine voir les choses. Et même en les voyant, il perd la raison. C'est ça, Lovecraft. C'est ce qui fait aussi, le génie de cet univers. C'est qu'on peut pas vraiment l'approcher non plus. Dès qu'on s'y frotte, on perd la raison. Donc tout ça apparaît dans le jeu. Donc il y a donc cet ADN de Chaosium du jeu de rôle qui s'imprègne dans le jeu, c'est-à-dire qu'on est avant tout dans un jeu d'aventure en vue subjective. On se balade dans des endroits, on repère des objets qu'on va identifier, etc. On discute avec des gens. Et puis on a tout un arc RPG avec tout un ces fameux arbres de compétences avec la force physique, les capacités d'enquêteur, et puis aussi la sensibilité ésotérique, la capacité du personnage personnage à comprendre les signaux surnaturels, on va dire, qu'il va avoir sur sa route et qui vont permettre, surtout concrètement, ce que ça permet, c'est de débloquer, comment dire, la reconnaissance d'objets au, au détour des décors, ou de débloquer des discussions au fil des discussions, des possibilités de discussion ou d'interaction au fil des discussions avec les différents personnages qu'on va rencontrer. Donc tout ça, ça marche bien. Je trouve qu'on sent qu'il y a une volonté, voilà, de coller à l'ADN du jeu de rôle et à l'univers de Lovecraft, et tout ça marche plutôt bien. Par contre, c'est là où on tombe dans les travers du jeu. Moi, je me suis accroché parce qu'encore une fois, j'aime l'univers Lovecraft. Le problème, c'est la réalisation. On a une réalisation qui est très datée. Enfin, ça peut passer sur un jeu d'aventure et on peut passer sur des... Encore une fois, le jeu transfigure ça dans certaines atmosphères visuelles. Dans le manoir au début, je trouve qu'il y a vraiment des choses très réussies. Le vrai côté où ça claque aux yeux, c'est les PNJ, les personnages à qui on parle. Ils ont 15 ans de retard visuellement, ils sont vraiment très datés. C'est tout bête, mais ça casse l'immersion. Quand on est dans un jeu comme ça de narration...
On m'a dit aussi qu'ils avaient genre une phrase...
Alors ils ont des phrases, c'est-à-dire une phrase. Oui, tu discutes avec eux, tu as comme cet arbre de discussion qui s'enclenche selon.
Et puis ça reboucle.
Tu reboucles. Ouais. Mais encore une fois, vraiment, c'est le visuel, moi. Ouais. Je trouve que c'est dommage parce qu'on est sur du jeu où les protagonistes qu'on rencontre sont capitaux, ils sont très importants. C'est eux, on est en vue subjective, donc on passe son temps à voir des personnages. Et là, je trouve que bon, il y a visuellement, puis le jeu est assez daté, même en termes de conception. On est sur des sortes de hubs assez fermés. Finalement, on fait assez vite le tour. Il va chercher ça, va voir machin, etc. Et encore, on retombe sur ces personnages, on a des animations qui sont datées. C'est dommage, vraiment. Moi, je pèse tête dans mon écran en me disant, bon sang, ils ont compris. Il y a une volonté qui est claire et nette de respecter tout ça. Et c'est pas simple, hein, c'est très compliqué de respecter Lovecraft. On sent qu'il y avait une volonté de le faire, mais visuellement, ça tient pas la route. Et je pense que pour pas mal de joueurs, ça peut vraiment être un ticket d'entrée qui va bloquer parce que il faut se démener qu'un jeu qui a 10-15 ans dans les pattes visuellement à certains moments. C'est contrebalancé, encore une fois, par certaines ambiances visuelles qui marchent bien, mais il faut passer ce cap. Ça, c'est pour la première partie du jeu. Je trouve que, on sent qu'il y a un manque de moyens, en fait. Il y a un manque de moyens flagrant. Ouais. Et le fait que je pense.
Des ambitions trop grandes,
peut-être. Des ambitions grandes, parce qu'on est sur Lovecraft, et derrière, il y a une mécanique qui a du mal à suivre. Et puis, on arrive sur une deuxième partie du jeu où on a l'impression qu'il y a une volonté un petit peu d'attraper plein de genres, de genres à la mode, de les mettre dans les intégrer dans le gameplay.
Le jeu devient un flipper et tu comprends
pas. Non, heureusement, on n'a pas ça, mais alors moi j'ai noté. Il y a des systèmes de reconstitution qui sont pas mal. Un peu à la Sherlock Holmes, et là je pense qu'il y a l'ADN aussi d'un jeu qui était avant tout piloté à la base par le studio spécialiste des jeux Sherlock Holmes. Donc il y a ces moments de reconstitution qui sont plutôt pas mal. Ce sont des petites parenthèses au sein du récit. On remonte dans le temps et on reconstitue des éléments importants pour comprendre la suite des événements. Donc ça marche plutôt bien. Par contre, il y a des moments d'infiltration un peu qui sont mal foutus avec à côté Diane Retry. Il y a un moment dans un musée, il y a une créature.
Un Diane Retry dans un jeu d'aventure.
Si ça passe pas bien, et c'est vraiment, tu commences à t'agacer. Tu dis, mais non, mais pourquoi vous n'êtes pas resté sur du vrai jeu d'aventure pur et dur, avec peut-être des énigmes peut-être un peu plus construites aussi, peut-être un peu plus raffinées. C'est vrai que là, ça manque un petit peu. Il y a un moment, alors j'ai pas compris, on passe, alors je vais pas trop spoiler pour ceux qui veulent le faire, mais à un moment, on passe sur du FPS. Et c'est dommage, je me dis, mais ça arrive à la fin. On est. À un moment, je vous passe tous les détails, mais j'ai eu une séquence un peu la Scooby-Doo où je courais dans tous les sens avec un monstre. Et c'est pareil, on s'embarque dans des trucs qui reviennent. On sent que c'est pas la force du jeu, c'est pas son propos. Il se dilue comme ça, il part un peu dans tous les sens à vouloir un petit peu. Du coup, on perd un peu la narration qui était plutôt bien posée, je trouve, avec des ambiances qui fonctionnaient bien. Encore une fois, l'essence était là, l'ADN, on le reconnaît bien. On sent que les gens ont bien compris ce qu'amène tout le gabarit, tout le package Lovecraft.
J'ai une petite question de curiosité, c'est pas du tout polémique du tout. Mais est-ce que c'est rappelé d'une manière ou d'une autre que Lovecraft était quand même un putain de gros raciste? Non, mais c'est un point d'interrogation.
Oui, bien sûr, ça fait partie de.
Non, mais parce que on est en 2018. C'est pas une question de dénaturer son œuvre. Et de dire que tout est à jeter.
Ah
mais c'est aujourd'hui, quand on a un auteur, on sait dans l'histoire que c'est un auteur ouvertement raciste aux États-Unis. Je vous passerai sur le nom de son chat, hein, qui est quand même le N-word américain. Enfin, c'est voilà.
Il était raciste, il avait plein de problèmes, ce garçon.
Mais non, mais est-ce que
c'est perturbé que c'est rose.
Je me demande si c'est pas quelque chose qu'on doit recontextualiser aujourd'hui. On fait une œuvre importante. Je dis pas le contraire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas aussi recontextualiser que, bon, bah, quand même, c'était...
Je sais pas, c'est des sujets traités ou non, même en filigrane
pas, vraiment, non, mais ou alors j'ai vraiment
ça
loupé.
L'est pas, hein, ça n'est mais... pas dans son œuvre non plus, ouais, mais ouais. C'est, je sais pas, c'est une question.
Après, il ne faut pas se faire un jeu sur Lovecraft, dans ce cas-là, ouais, peut-être. Tu vois, est-ce qu'il ne faudrait pas le mettre même lui-même mais en scène et le questionner? Je sais pas, ça peut être une question.
Enfin bref, mais effectivement, c'était une parenthèse. Quand
c'était
même.
Un personnage assez torturé.
L'histoire du jeu, de toute façon, c'est les développeurs qui l'ont un peu faite, non?
Oui, ils ont pris des influences, comme tu dis. C'est plutôt tiré du jeu de rôle, je crois.
Oui.
Mais bon, on reprend plein de références, de thèmes forts de toute l'œuvre de Lovecraft. Voilà, je l'ai fini. Donc, c'est-à-dire que le jeu m'a tenu. Voilà, il m'a tenu jusqu'au bout. J'ai voulu voir le point final.
C'est ta
conscience
professionnelle aussi.
Non, vraiment, il m'a tenu.
C'est la patience de Patrick qui, quand un univers lui plaît, il peut tenir.
Non, parce que c'est un univers qui me plaît, qui me parle, et je voulais voir jusqu'où ils allaient avec les choix finaux à la fin qui sont un peu. D'ailleurs, qui sont un peu expéditifs, mais
voulez-vous sauver le monde ou le condamner?
Encore une fois, je pense qu'il fallait rester sur du pur jeu d'aventure.
Ouais. Call of Cthulhu. Donc, c'est sur quoi? C'est sur PC.
Alors PC, PS4, Xbox One.
D'accord. C'est le moment d'accueillir, un peu en retard par rapport au timing d'habitude, d'accueillir la chronique de Jérémy Kletskin, la chronique de jeux de société. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Alors prépare-toi bien parce qu'aujourd'hui on va parler d'une console de jeux de plateau. Et oui, ça existe. La console s'appelle la 8-bit box et elle est livrée avec 6 manettes et 3 jeux. Alors parlons surtout du concept et ensuite rapidement des jeux disponibles. Alors même si la notice parle d'un bouton reset, d'un port antenne, d'un disque dur, tout est évidemment factice, il s'agit de carton et de papier. Mais ça a l'avantage de ne pas avoir besoin d'être branché sur le secteur et vous n'aurez pas besoin de télévision non plus. Dans la boîte de la console, vous trouverez donc 6 manettes de couleurs différentes. Sur chaque manette, il y a des disques rotatifs. Sur le premier, vous pourrez choisir en haut à droite, en bas, etc., etc. Sur le second, vous pourrez choisir un numéro de 0 à 9. Et sur le troisième, vous aurez le choix entre A, B, C ou D. La console propose aussi plusieurs dés, des jetons de couleurs et des cubes blancs qui seront donc communs à tous les jeux. Les jeux sont ensuite individuellement proposés, vous savez, dans des boîtes comme celle de la Super Nintendo. Le premier s'appelle Pixoid. Il s'agit d'un Pac-Man-like asymétrique. Les joueurs jouent des pixels qui se déplacent dans un labyrinthe. L'un d'entre eux tentera d'échapper aux autres, qui jouent le rôle des fantômes en quelque sorte. Les joueurs vont secrètement choisir une direction sur leur manette, qu'ils vont ensuite simultanément dévoiler. Il faudra donc essayer d'anticiper le déplacement des autres joueurs. Le deuxième jeu fourni s'appelle Outspeed. Et là, tout de suite, ça rappelle Wipeout, F-Zero. Il s'agit donc d'une course de vaisseau où chacun tentera de passer la ligne d'arrivée le premier. On dévoilera des tuiles qui offrent 3 possibilités et chaque joueur pourra simultanément là aussi choisir l'une d'entre elles. Vous choisirez donc entre vous ravitailler, avancer plus vite, obtenir un bonus, etc. etc. Évidemment, certains bonus vous rappelleront les carapaces bleues ou les pots de banane. Le troisième jeu est un jeu de sport par équipe. Vous devrez réfléchir ensemble à comment répartir votre énergie entre plusieurs épreuves. Les athlètes se déplacent le long d'une piste olympique et tentent d'obtenir un maximum de médailles. Il a la particularité de ne pouvoir être joué qu'à 4 ou à 6. J'ai pu tester un quatrième jeu qui n'est pas encore disponible et qui n'est donc pas dans la boîte d'origine. Il s'agit d'un beat'em all qui rappelle un petit peu Double Dragon ou Street of Rage. Mais il faudra sans doute attendre encore quelques mois pour voir celui-ci arriver sur les étagères. Mais la console de base et les 3 premiers jeux sont eux bien disponibles. Le concept a été imaginé par Franck Critin et Grégoire Larguet. Le tout est édité chez Yellow. Tous les jeux sont pour le moment agréables sans pour autant être révolutionnaires, mais c'est le type de boîte qui peut faire un sacré effet sous le sapin. Vous connaissez ce regard incrédule des non-initiés qui entendent parler de jeux vidéo? Eh bien, ne soyez pas aussi incrédules que ces incrédules, jouez aux jeux de plateau. Bye bye.
Ciao Jérémy.
Bon bah vendu, hein. Moi je prends.
C'est, ouais, oui, la console
là,
de...
Ouais, c'est... J'avoue que là, ouais.
C'est bon. Ouais, tu as convaincu Jérémy,
ouais,
bien
je
joué.
Je signe.
Alors pour le jeu suivant, bah pas de... Pas de petit jingle, pas d'extrait sonore,
pas de
tout
poulpe,
ça.
Hein.
Bah, non, non, pas de poulpe.
On n'a pas vu toutes les caméras. Hein, mais...
Non, peut-être pas encore. Non, on va parler de Do Not Feed the Monkeys. Alors, petit rappel, c'est... Corentin, oui, dans un mail.
Tu me largues dans l'explication du jeu, là.
Non, pas du tout. C'est que je racontais que dans un mail, Corentin me dit « Je veux parler de Do Not Feed the Monkey. Erwan, joue-y, c'est pour toi. » Forcément. Bon, je suis piqué. Donc, j'installe le jeu et je vais raconter le début du jeu parce que, je ne savais rien. Mais alors, rien, pour vous dire. La seule indication, c'est le titre, hein, Do Not Feed the Monkey, ne nourrissez pas les singes. Et le fait que Corentin m'ait dit d'y jouer. Hein, j'avais ces deux seules informations. Et donc, on arrive sur une interface pixelisée, une interface d'ordinateur, où on nous dit qu'on rejoint une sorte de club d'organisation avec des règles. Alors déjà, les règles, on ne comprend rien. On nous explique qu'on est dans l'organisation, bienvenue dans cette organisation. Vous avez des niveaux, hein, donc vous avez 5 jours pour atteindre le niveau suivant, autrement vous êtes viré. Et pour atteindre le niveau suivant, il faut acheter 5 cages. Et après, à chaque niveau, il faudra acheter 5 cages avant 5 jours. Point. Voilà, merci. Vous avez l'application qui est installée sur votre ordinateur. Lancez l'application et bonne chance. Et là, tu sais, de cage, de quoi, de quoi et donc là, on voit un écran d'ordinateur, donc format pixelisé, hein, voilà, un peu de dessin pixel, hein, un peu comme ça. Et donc, on clique sur l'application Monkey ou un truc comme ça. Ah oui, et avec une instruction, surtout, un post-scriptum, Do Not Feed the Monkeys.
C'est très important.
Voilà, Do Not Feed the Monkeys, c'est très important. Et donc là, on se retrouve avec une application où il y a, je crois, au début, 5 caméras.
Ça doit être quelque chose comme ça, ouais.
Et enfin, c'est 5 écrans avec des choses qui bougent à l'intérieur. On va pouvoir zoomer, regarder ce qui se passe. Et après, on comprend assez vite, évidemment, qu'on est face à 5 caméras de vidéosurveillance. Mais on n'a pas plus d'indices pour autant.
Quand même le petit tutoriel, hein, qui est là pour nous expliquer comment utiliser les différentes mécaniques de jeu.
Mais pas grand-chose d'autre. Hein. C'est dézoomer.
En fait, on nous donne des actions, mais on ne comprend pas le lien entre ces actions. Ouais. Du coup, c'est un peu bizarre. Genre, on allait y arriver, mais on peut observer les cages et noter des détails, par exemple.
Voilà, on peut noter des détails. Alors ça se remarque parce que sur la première de ces cages, de ces caméras, donc, on voit une sorte de pièce et il y a quelqu'un qui arrive et qui voit avec qui prend des photos par la fenêtre et en fait elle dit des trucs et il y a des mots en jaune, donc par réflexe on clique sur les mots, on voit que les mots descendent dans un calepin et finalement quand on ouvre le calepin, ces mots se situent comme ça, c'est des petites notes qu'on prend en fonction de ce qu'on voit. Arrive sans qu'on sache trop pourquoi, un appel de chat, hein, de Messenger. Et là, on comprend que c'est un de nos potes qui nous explique. Et c'est lui qui nous a fait rentrer un peu dans cette organisation. Et grosso modo, il commence à nous parler, à nous expliquer un peu que il va falloir grimper. Moi, j'ai commencé à grimper les échelons, c'est formidable,
il
etc.
Se la joue,
il se la joue, il se la pète et tout. Je suis monté, machin. Et donc, il va falloir monter les échelons. Et puis, il nous dit aussi, j'ai un conseil. Alors moi, quand je suis rentré dedans, j'étais à donf et j'ai mal vécu parce que j'avais un peu oublié de manger et de se nourrir et de dormir. Et là, tu te dis « what ?» Et donc là, tu commences à bouger ta souris un peu vers la droite de l'ordinateur et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas que ça comme interface. Il y a aussi ton appartement. Et donc, tu as la porte d'entrée parce que tu entends un « toc, toc, toc ». Et là, tu dis « what ?» machin. Et là, tu trouves un mot, c'est la proprio qui te dit « dans 2 jours, je viens prendre le loyer, 90$ ». Et là, tu commences à voir un truc. Et la caméra suivante, donc la cage suivante que tu dois acheter, sachant que tu as 5 jours pour en acheter 4 supplémentaires, c'est quand même entre 50 et 90$ la cage. Tu regardes ton compte en banque, tu n'as que 120$. Donc tu te dis, il va falloir commencer à gagner de l'argent. Et en fait, tous ces trucs-là, c'est assez. C'est quoi le mot de l'année dans Silence on joue
organique.
C'est organique, voilà,
organique.
C'est ça. En fait, il y a un côté assez naturel où tu vas commencer, puis tu vois une liste de courses sur le frigo, alors tu cliques et tu comprends que tu vas pouvoir aller faire des courses
sans
pour te nourrir.
Et trucs comme ça, tu le comprends.
Sans vrai tutoriel. T'as aussi l'appel des livreurs de pizza et de choses comme ça. Et t'as la machine à café au-dessus du frigo. Et t'as les trucs qui sont dans le frigo. Et t'as deux jauges qui sont la faim
et le sommeil.
La faim et le sommeil et la santé en général. Et tout ça, tous ces éléments-là. Sachant que le temps s'écoule et que les jours se passent. Et on se dit, mais comment je vais faire ?
Comment on va gérer sa vie ?
Comment on va gérer sa vie ? Parce qu'il y a plein de choses à faire. Et je te laisse enchaîner, Corentin, parce que
c'est dur. Hein.
C'est un truc...
Très difficile à expliquer, mais je pense qu'un des jeux les plus proches de ce jeu-là, enfin, ça n'a rien à voir, mais en même temps, c'est le plus proche, c'est Papers, Please, quoi. Je vois pas d'autres jeux qui pourraient s'en approcher. Donc, Papers, Please, pareil, pour vous expliquer, on va vous résumer. Oui, alors, c'est un jeu de simulation de douanier. Mais en vrai, c'est d'autres choses. En fait, c'est un jeu où il faut relier des indices entre eux pour trouver des informations et vérifier si elles correspondent aux documents et ensuite dire, bon, bah, Coco, t'as pas la photo de ton passeport, tu te casses, quoi. Mais voilà. Ici, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, comme tu dis, on va cliquer sur des éléments des caméras. En fait, le but du jeu, ça va être d'apprendre un maximum de choses sur les cages, donc les caméras de sécurité qu'on a hackées ou qu'on nous a donné accès, qui ont été hackées par ce club qui, en fait, c'est les Illuminati, ces mecs-là. C'est vraiment, c'est la secte qui domine le monde, on sait pas trop comment. Il y a des caméras, tu te demandes comment elles ont été activées là. Genre, il y a des caméras en plein musée, des caméras, genre, dans des industries pharmaceutiques, des trucs comme ça. Tu fais, oh, ouais, le club, il est bien implanté, il a le bras un peu long.
Pour qui tu roules, en fait.
Voilà, pour qui tu roules, quoi. Et surtout, donc, t'as cette espèce de course contre la montre où tu dois gérer ton temps, ta santé, tout ça. Donc au final, tu vas devoir aussi accepter des petits boulots, sachant que le petit boulot, tu vas dire, attends, je vais gagner $40 en 3 heures, est-ce que ça vaut le coup, sachant qu'il faut que je dorme, que je mange. Ah mais attends, c'est le job où on goûte des chips, comme ça j'aurais bien mangé. Bon, par contre, ma santé va baisser. Bref, et donc t'es toujours là dans le compromis, t'es à 100% dans le compromis, sachant que toi, au bout de 5 jours, tu dois avoir payé le loyer, sinon t'es viré de chez toi, t'as perdu. Tu dois avoir payé tes cages, sinon t'es viré du club et t'as perdu. Tout ça sans mourir hein, dans l'ensemble. Donc ouais, c'est une espèce de multitasking absolument incroyable et en même temps t'es fasciné.
Il y a une sorte de sentiment d'urgence et t'es subjugué. J'enchaîne, mais c'est t'es pris dans le truc. Au bout d'une heure de jeu, cette heure est compliquée. La première heure de jeu est compliquée parce que t'as trop d'informations.
C'est stressant.
T'as une somme d'informations où t'es là, mais tu te sens débordé. Et en même temps, c'est là où c'est super bien fait. C'est en même temps tu te sens débordé et tu commences à saisir des choses. Cette première caméra avec la personne qui prend des photos là, tu vois qu'elle s'allume et tu vois, t'as aussi un accès à un navigateur. Donc en fait, t'as pris des infos et si tu rentres des infos dans le navigateur, t'as une sorte de Google, enfin de moteur de recherche. Tu peux mettre deux termes et ça va commencer à te ressortir aussi des infos. Et tu vas commencer à avoir des infos.
Il faut dire un truc aussi, c'est que dans notre calepin, en fait, les mots sont regroupés par groupe. Mmh. Et en fait, quand on a suffisamment de mots dans le même groupe, en fait, on peut faire une déduction. Mmh. Donc le jeu va vous proposer trois termes. Et en fonction des mots que vous aurez vus, vous pourrez choisir un des trois termes.
Et faire
des recherches dessus. Alors le jeu va jamais vous dire si vous avez raison ou non avec les termes. A priori, en général, quand on vous propose les trois termes, c'est que vous avez largement assez pour faire une déduction. Je donne l'exemple, un des premiers exemples, c'est qu'on trouve, il y a un rat dans la première caméra, on voit un rat, on voit un toit, on voit des vieux skis, on voit machin. Et en fait, le jeu vous demande, c'est dans quelle pièce de la maison?
Est-ce que c'est dans la cave
dans le grenier, machin. Comme il y a une fenêtre, tu sais que c'est dans le grenier, tu vois bien qu'il y a le toit, tu vois bien que c'est le grenier. Et donc, il y a peu de chances de se tromper là-dessus. Mais grâce à ça, et on va peut-être la dévoiler celle-là parce qu'elle est intéressante. On va pouvoir appeler une certaine personne pour lui dire, dites donc, il y a dans un grenier, il se passe un truc bizarre. Et tu vas obtenir des informations comme ça, tu vois ce que je veux dire.
Mais en fait, c'est un peu un remake de, c'est quoi, c'est la vie des autres en mode Night Trap.
Il y a un peu un petit côté Night Trap.
Tu regardes, mais t'es pas censé intervenir.
Ouais, mais alors
Do Not Feed the Monkey, c'est ça, c'est la règle que nous explique notre petit camarade par chat. Do Not Feed the Monkey, c'est finalement n'interagissez pas avec les gens qui sont de l'autre côté de la caméra. Sauf que en deuxième session de chat, le mec il dit tout le monde le fait.
Ouais, tout le monde le fait.
Tout le monde le fait.
Parce que tu peux faire chanter des gens. Bah oui. Parce que tu peux tu peux provoquer des gens pour qu'ils t'envoient de l'argent. Il y a des choses à faire.
T'es dans une telle urgence financière parce que vraiment t'es dans une urgence financière et parce que t'es happé par ces caméras et que t'as pas envie de bosser 4 heures parce que 4 heures ce sera 4 heures de perdu où tu verras pas des indices sur la petite caméra. Et donc du coup, t'as envie de, et donc tu finis par récolter des numéros de téléphone, récolter des adresses de messagerie et des choses
des
comme ça.
Donc, postales,
des adresses postales. Donc tu vas pouvoir rentrer en contact avec les gens. Et moi, si le vrai rappel, enfin même, je sentais comme une sorte de filiation, c'est ça m'a rappelé In Memoriam, donc la série d'Eric Viennot, mais une sorte d'In Memoriam punk, parce qu'il y a vraiment un côté presque punk, cyberpunk dans ce genre de
choses. Je sais pas trop pour cyberpunk, parce que ça part dans les tours à un moment donné. Enfin, je veux dire, il y a des caméras, c'est de la science-fiction. Enfin, je veux dire, je vais rien dire parce que c'est dommage. Parce que moi je trouve qu'une des forces de Not Feed the Monkeys, c'est vraiment l'aspect
découverte
des différentes histoires. En fait, parce qu'en fait, chaque caméra n'est pas vraiment là par hasard. Il y a un truc qui va pas. Il y a une une situation bizarre. Ça peut être donc là dans le cadre de notre grenier, en fait, il se trouve c'est un paparazzi qui prend à son insu des photos de nu d'une star. Mais il y a d'autres situations où c'est des trucs carrément illégaux, des trucs un peu chelous, genre qui sont passés il y a très longtemps et le mec, tu sens qu'il a un passé ultra trouble. Il y a des gens qui s'apprêtent à partir en prison. Il y a des gens qui. Non, enfin voilà. Il y a à chaque fois, tu sais que t'arrives dans une situation où c'est chelou. Il y en a une qui m'a beaucoup fait rire où tu comprends rien parce que il parle dans une langue étrangère. Et donc toi t'es là en train de faire tes recherches dans la langue étrangère, tu ne trouves rien, c'est insupportable, ou des pages en langue étrangère qui ne t'apprennent absolument rien. Et à un moment donné, la personne part, revient, elle est habillée en maîtresse dominatrix, et tu fais ah d'accord, bon bah, c'est parti, on est parti sur une situation comme ça. Donc il y a toujours des situations un peu étonnantes. D'ailleurs on l'a peut-être pas dit, mais c'est bien beau de pas nourrir les singes, mais en vrai le club en fait vous envoie des mails régulièrement et vous pose des questions, et en fait le but c'est de répondre à ces questions, et si vous répondez juste à ces questions, ils vous envoient de l'argent. Donc en fait la façon dont le club voudrait que vous agissiez, c'est simplement de répondre aux mails qu'on vous envoie. Et d'ailleurs
est-ce que tu peux vivre avec juste ça?
Moi j'ai... Bon, il y a plusieurs fins. Et j'ai eu la fin où j'ai pas nourri les singes. Donc oui, c'est possible. Mais après, je pense qu'il y a un degré. J'ai quand même nourri quelques singes. Mais je pense qu'il y a un degré où si tu nourris trop de singes, t'as d'autres fins. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et du coup, ouais, j'ai réussi à finir une session. Et ouais, il y a des sessions en effet où tu te fais avoir aussi. Je veux dire, il y a une session où j'ai pas réussi à tenir. Je me suis fait virer du club et je me suis fait arrêter. Je sais qu'il y a d'autres fins que j'ai pas encore pu voir. Il y a des questions qui sont sans réponse encore pour l'instant. Il faudrait que je refasse une partie. Et d'ailleurs, le jeu est plutôt cool parce que c'est vrai que, alors, à titre personnel, j'ai quand même une remarque sur le jeu un peu négatif, c'est que le jeu est stressant. Moi, je suis désolé, tu es stressé quand tu joues au jeu. Moi, je n'arrive pas à me détendre avec ce jeu. Je suis fasciné, j'adore ce jeu. Il est vraiment, mais il est incroyable. Enfin, ce jeu a vraiment marqué les différents festoches où il a été présenté et il le mérite. C'est un studio madrilène qui est derrière ça, Fixiorama Studio, bravo à vous. Mais putain, waouh, je me détends pas avec ce jeu-là. Hein. Je suis en mode, bon, c'est parti pour
viens
2 heures de stress.
Lego,
quoi.
Viens jouer au Lego, viens jouer au Lego.
Non, mais sérieusement, c'est important ce que tu dis. Mais ce stress. Qui est le stress du temps réel, qui est un stress très rare dans le jeu vidéo, du temps réel, parce que même quand tu travailles pas, même quand en fait c'est du vrai temps réel, parce que tu peux avoir deux caméras, parce que tu as un indicateur des caméras où il se passe quelque chose quand même.
Night Trap était en temps réel aussi.
T'as ces trucs où tu as 2-3 caméras où il se passe des trucs et donc tu sais pas sur laquelle cliquer pour choper des informations. Est-ce qu'il y a pas des informations?
Tu sautes de l'une à l'autre en espérant choper des mots.
Et du coup, tu es dans une urgence totale. Ouais. Constante. Et je trouve que c'est...
Et le jeu joue de ça, par exemple. À un moment donné, le mec est en train de dire un truc super important. Toc, toc, toc. Non, j'ai pas le temps. Lâche-moi le propriétaire. Et t'es à deux doigts de dire, non, je paye pas le loyer ce mois-ci, désolé.
Tu peux pas enregistrer les flux vidéo.
Alors tu peux, mais sur des très courtes périodes. Et surtout, ça sert pas vraiment à ça. Ça sert à le revendre à des journaux à scandale, des trucs comme ça pour gagner 3 francs 6 sous. C'est vraiment rigolo. Ils ont vraiment pensé à plein de trucs. Tu peux aussi regarder dans le journal. T'as des infos dans le journal aussi, des fois. C'est étonnant. Et il y a surtout des conséquences aux actions qu'on fait. Donc par exemple, il y a certains singes, on va les nourrir, mais ça va peut-être pas bien se passer pour eux si tu les nourris. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je sais que j'ai été responsable de la mort de certaines personnes, par exemple, parce que j'ai nourri ces singes-là.
Non, mais c'est vraiment, ils ont trouvé un concept incroyable. Ouais. Et c'est là cette force. Et c'est là des fois, il y a des vraies déceptions qui arrivent quand t'as un concept incroyable et que par exemple l'histoire ou la narration empêche, on n'utilise pas aussi bien qu'on aurait voulu un gameplay parce que c'est un peu faiblard derrière. On a eu des cas comme ça. Mais là, il y a une cohérence générale. Il y a une cohérence générale où tout alimente le reste. Enfin, c'est des choses qui que ce soit le petit gameplay de nourriture, que ce soit le machin, tout est là pour ce sentiment d'urgence, en fait, pour cette fascination. C'est assez incroyable.
Ce qui est assez beau, c'est que du gameplay découle naturellement l'histoire, ou est-ce que de l'histoire découle naturellement le gameplay? On ne peut pas dire. Oui. Et du coup, c'est la preuve que vraiment tout a été conçu en un tout et qui rend la chose particulièrement savoureuse.
Petit warning quand même, il n'est pas en français.
Oui, c'est vrai.
N'est pas en français, c'est qu'en anglais. Donc, je sais que chez certains auditeurs, ça peut être un frein aussi. Donc,
surtout que ça demande de la compréhension, faire certaines recherches, faut chercher certains termes. Mm-hmm. Donc, ça demande une certaine compréhension de ce qui se passe. Ça demande aussi de deviner certaines situations. Enfin, ça demande des déductions. Hein. C'est un petit peu jeu d'enquête aussi. Ouais. Donc, il y a certaines choses que vous devez deviner par vous-même. Parce que quand on va vous poser la question ensuite, genre, quelle est l'adresse de tel personnage, il est possible qu'on vous l'ait donné, mais que vous ne l'ayez pas remarqué parce qu'il fallait la deviner. deviner en, à demi-mot, tu vois. Et du coup, ouais, si on comprend pas ce qui se passe ou si on est un peu perdu, ça peut vraiment être problématique.
C'est incroyable. Ouais. C'est un jeu incroyable de Not Fit the Monkeys, dispo donc sur PC. Hein. Donc,
ouais, j'ai le sentiment qu'il fait pas vraiment la une de tous les médias. Je trouve que les gens en parlent pas assez par rapport à la révolution du gameplay que c'est.
Non, mais sincèrement, je le trouve très important. Enfin, cette première heure est aussi difficile à passer qu'elle est incroyable.
Ouais. Hein,
parce qu'en fait, c'est une sorte de. Ça te prépare à tout le système de gratification finalement. Parce que cette première heure, tu vas être content parce que tu vas avoir compris le jeu. Ne serait-ce que tu as compris la proposition qu'ils te font. Et ensuite, ça ne va être que ça. Ça va être des gratifications. Ouais. C'est le fait de comprendre. Ça m'a rappelé le sentiment que j'avais sur Her Story aussi, qui est avec ce côté caméra qui était là aussi. Il y a plein de choses comme ça. On est sur un peu l'évolution du jeu d'enquête, du jeu de déduction, et c'est brillant, c'est vraiment brillant.
Et en fait, il faut pas hésiter vraiment à commencer une partie, se rendre compte de toutes les heures qu'on a fait parce qu'on comprenait pas le gameplay au début et tout ça, et immédiatement recommencer tranquillou. Ah oui, et je précise aussi, c'est très stressant certes, mais ils ont fait un truc génial, c'est qu'ils ont prévu un mode avec la gestion du temps beaucoup plus assouplie, avec on peut vraiment passer son temps à regarder les caméras parce que les petites histoires sont rigolotes. Et du coup, pour ceux, enfin moi là, je suis tenté de faire ma troisième run sans la pression de la vie à gérer, et j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer ce mode là, mais il me fait très envie parce que honnêtement, juste ce qui se passe dans les caméras, rien que ça, c'est fascinant. Et du coup, bon voilà, il n'y a pas que l'aspect gestion, il y a aussi l'aspect narratif qui peut être mis en avant par ce mode là. Du coup, n'hésitez pas, même si vous avez peur de l'aspect gestion, quoi.
N'hésitez pas, surtout.
Ouais.
Et rappelez-vous de Not Fit the Monkeys.
Voilà, c'est 12€, c'est sur PC.
PC uniquement, hein. Ouais, évidemment.
Je pense. Ouais. Cela dit, sur Switch, ça passerait bien, je pense.
Ouais, c'est bon, ouais, peut-être beaucoup
au tactile,
de petites écritures quand même.
Au tactile, hein, ouais. Ça pourrait. Bah, il suffit de bouger la police.
C'est ça. On va terminer avec des Lego et des DC et des vilains. Et voilà, et c'est Lego DC Villains.
All your favorite heroes are gone.
I'm sure something will turn up. I'd like to say I knew that would happen.
We are the Justice Syndicate. We're here to help.
We're putting a team of super bad guys together.
Est-ce que sérieusement, en 2018, on va parler d'un jeu Lego?
Bah ouais.
Ouais.
Bah pourquoi pas?
Alors est-ce que ça a évolué depuis Star Wars et Indiana Jones?
Alors,
et Harry Potter?
Bah en fait, il y a eu quand même, y a eu toute la période Lego Dimension, hein. On a quand même eu on a eu toute la parenthèse Lego Dimension. On est un petit peu aujourd'hui, on se remet de tout ça parce que ça a été quand même, c'était gigantesque, hein, ce qui s'est passé Lego Dimension. On rappelle un petit peu les jouets donc Lego qui avaient été hybridés avec un jeu vidéo donc pareil développé par Telltale. Et on a eu des fulgurances 80s qu'on n'aurait même pas osé imaginer, hein, des personnages des niveaux K2000, des niveaux les Goonies, des niveaux E.T. Ça a été un festival Lego Dimension. Moi, j'étais très triste, hein, quand ça s'est arrêté parce que il y a eu le crack du marché du jouet connecté, malheureusement.
Ouais,
ça c'est
les Amiibo maintenant.
Et puis les Amiibo, puis Ubi aussi qui s'est mis avec Starlink. Mais bon, voilà. En tout cas, Lego Dimension s'est arrêté. Donc là, on revient à des formules Lego plus traditionnelles avec du jeu sans les jouets.
Il y a plus Skylander.
Je crois qu'ils ont arrêté.
Non, ils sont en veille. Ils sont, je crois, en mobile, il me semble, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, il y avait un jeu de cartes, je crois.
Mais c'est en sommeil. Je pense que c'est en sommeil. Ça reviendra certainement sous une forme ou une autre, à mon avis.
C'était un peu un cash générateur.
C'est ce qui a poussé Nintendo à faire les Amiibo.
Bien sûr, c'était le déclencheur. C'était vraiment le déclencheur à l'époque de la tendance.
En fait, les créateurs de Skylanders étaient allés voir Nintendo pour leur proposer. Ils ont dit
oui,
ça marchera jamais. Et genre, Activision, ils ont fait ouais, allez-y. En fait, ça a cartonné. Nintendo a fait bon, on va peut-être faire les Amiibo.
Mais les Amiibo continuent. Il y a encore des nouveau pour le Smash qui ont été annoncés. Ils sont toujours là, mais bon, en tout cas, la vague est passée, clairement. Donc là, on revient à des jeux Lego plus traditionnels. Alors que tu me demandais, est-ce qu'il y a une révolution? Non, bien sûr que non. Quand on prend un jeu Lego aujourd'hui, on sait à quoi s'attendre et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on est sur du. Moi, j'aime bien jouer à ces jeux-là. Moi, j'avoue que passé un certain âge, ça devient un peu indécent de jouer avec ces jouets Lego. Donc on les achète pour les collections, pour les exposer, mais on joue plus trop avec. Avec ces jeux-là, on retrouve un petit peu ce côté avec le bruit des briques qui se frappent les unes contre les autres, retrouver et puis là on est sur un jeu, donc on resitue un petit peu quand même le scénario parce que c'est important. On est sur donc la licence DC Comics. Moi c'est ce qui me parle plus que Marvel, après chacun ça c'est des guerres de paroisse, mais c'est vrai que DC, j'ai une affinité avec DC. On est donc dans un scénario avec la Justice League qui disparaît, qui se fait enlever, qui est remplacée par le syndicat de la justice, et du coup en fait les bad guys de l'univers DC vont devenir un peu les héros là. Ils vont essayer de remettre un petit peu les choses en place parce que ça se passe pas très bien. La Justice League est dans une autre dimension et finalement le jeu là se focalise donc sur les bad guys de l'univers DC. C'est l'occasion de contrôler le Joker, Lex Luthor, Catwoman, enfin plein de personnages. C'est un jeu assez costaud qui est très généreux. C'est ça que j'aime aussi dans
la
formule.
Qui est la
marque
de fabrique des Lego. Hein.
Alors,
c'est la générosité.
Toujours. Et là, je crois qu'on a 150 personnages qu'on débloque au fur et à mesure des parties, etc. Donc, c'est quand même colossal. Quand on aime un petit peu, voilà, l'univers DC, c'est un régal de débloquer les personnages. Surtout que ça a beau être des personnages Lego qui sont faits de quelques briques. Hein, on connaît, voilà, le symptôme, le principe des Lego. Ils ont quand même chacun leur façon d'être joués. Ils ont chacun leur comportement, leur pouvoir. Mine de rien, il y a quand même un effort toujours.
C'était spécial pour des puzzles, notamment.
Exactement, aussi, voilà, tu dois faire appel à tel ou tel personnage selon ses facultés. Et je trouve que, mine de rien, bah, les 100 et quelques personnages, ils ont chacun leur charisme et leur personnalité, leur façon d'être joué. Donc ça, c'est toujours là. On a beaucoup de personnages, on a toujours ce mix entre des mondes ouverts assez importants, des missions secondaires qu'on va débloquer à droite à gauche, qui sont toujours plus ou moins délirantes, parce que c'est ça aussi, toujours l'ego, ça se penche jamais vraiment bien au sérieux. Donc c'est toujours rigolo, il y a toujours ces petits clins d'œil, cette distanciation, mais c'est ce que j'ai toujours aimé chez les adaptations Lego, que ce soit Star Wars, Jurassic Park, que ce soit tous les autres. Ouais. Il y a toujours cette distanciation avec le matériau de base, d'origine, qui fait qu'on sent le côté pince sans rire, les petites pointes d'humour que enfants n'ont pas forcément toujours capté, mais que nous, de nos 40 ou plus, on perçoit, et ça c'est toujours amusant.
C'est toujours le paradoxe avec Lego, c'est que c'est pas des... Moi, je suis jamais excité par un jeu Lego, tu vois. Parce
non,
que c'est...
Mais tu
ne peux pas ne pas le recommander. Si quelqu'un vraiment dit « Ah, j'adore Harry Potter, t'as déjà fait un jeu Lego ?» Bah non, bah tu peux y aller.
Surtout quand
tu sais que ça sera de la bonne cam,
je
sais que ça sera rigolo.
Et surtout quand tu as une affinité avec la licence, que ce soit Harry Potter, que ce soit Jurassic World, qui était pas mal. Là, les DC, bah, c'est marrant aussi. On sent que c'est comme une variation sur un même thème. On est dans l'univers DC, bon... On sent que le studio peut pas trop évoluer parce qu'il y a une recette qui est figée. Bon, bah on va aller taper chez les méchants. Je trouve que c'est plutôt bien vu. Et moi, en y jouant, j'arrêtais pas de penser au film Suicide Squad, qui était un flop monumental il y a 2 ans, qui était mal foutu, qui était. Et
bah, mais qui a eu un Oscar, n'oublie pas, qui a eu un Oscar pour les costumes ou la technique. Ouais.
Bon, bref. Et qui était raté. Et là, justement, je trouve qu'il y a ce côté flashy. Le jeu est très flashy dans les couleurs. Ouais. Il reprend ce côté délirant. On retrouve un peu le parler du Joker. Il y a un côté, alors c'est pas méchant parce qu'on est sur du Lego, c'est peut-être un peu la limitation, c'est que on aurait voulu avoir quelque chose de plus piquant et de plus méchant,
mais pas avec Lego.
Ah non, mais justement, ce sont des méchants qui deviennent gentils. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a une charte graphique, il y a un vrai côté flashy assez rentre dedans, et qui fait que on a un univers quand même malgré tout au sein de la galaxie DC qui est quand même assez marqué.
En fait,
on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans les prémices de Suicide Squad, notamment dans la communication. Voilà, dans le film, c'était complètement vautré, mais il y avait ce côté flashy, un peu délirant. Et ça, on le retrouve bien. Puis on a ce côté, le
diorama de Lego.
Exactement, le caractère des méchants. Ça marche plutôt bien. Il y a quelques petites choses que j'avais pas vues dans les précédents. Je les ai pas tous faire, mais là, il y a un petit côté GTA avec la recherche. C'est-à-dire que quand on va taper des policiers ou des civils, hop, on a un niveau de recherche qui fait qu'on va être pourchassé. C'est tout bête, mais ça peut.
C'est un monde ouvert alors ?
C'est un monde ouvert, mais comme toujours, hein, t'as un monde qui se débloque, etc. Donc encore une fois, on est sur la formule old school, mais qui marche bien, mélange de beats et mots, avec des petites énigmes jamais trop méchantes, mais qui font, et surtout jouer à deux, je pense qu'un plus petit, c'est vraiment un régal, parce que c'est vraiment fait pour ça, pour être joué à plusieurs. Dernière chose, moi je le fais sur Switch, et mine de rien, on est quand même sur avec une version Switch comme celle-ci aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un jeu, alors il y a eu les Indestructibles, hein, je crois entre deux que j'ai pas fait, mais c'est la première fois qu'on a une expérience, encore une fois grâce à la Switch, qui est équivalente en portable et en console de salon. Moi, je me rappelle justement des précédents qui sortaient sur Wii U et 3DS. On avait une version Wii U complète avec l'open world, notamment sur Jurassic World. Et sur la version 3DS, on avait une version réduite avec des portions de jeu qui disparaissaient ou qui n'avaient pas justement le côté monde ouvert. Où on avait on devait un peu rogner sur les contenus. Là, du coup, on a une version complètement hybride qui permet d'avoir une version de salon et une version portable qui sont les mêmes. Et ça, mine de rien, grâce à la Switch, c'est aussi intéressant.
Ils ont ressorti des jeux Lego sur la Switch
je crois qu'il y a Harry Potter qui est ressorti, mais que j'ai, bon, c'est moins mon truc. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, c'est une valeur sûre. Effectivement, comme tu disais, on n'est pas surpris, mais le travail est bien foutu et il y a beaucoup de contenu. Il y a vraiment, enfin, là, on peut y passer beaucoup de temps.
On est en 2018. On a parlé d'un jeu Lego.
Oui, je pense que c'est pas le dernier. Après, évidemment, ça pose la question de l'avenir parce qu'il y a eu Lego Dimension. Demain, est-ce qu'on pourra continuer comme ça à avoir les mêmes recettes essorées comme ça sur toutes les licences? Je pense pas. À un moment, je pense qu'il faudra peut-être aussi.
On a bien vu les gens on arrête de voir des films Marvel, donc je pense que ça.
Il va falloir peut-être aussi. C'est pas faux, mais justement, il faudra peut-être un moment reposer la question.
Il y aura toujours des nouveaux jeunes joueurs. Tu vois ce que je veux dire?
Je sais qu'ils avaient tenté Lego Worlds, qui était. Mais je suis pas sûr que ça ait bien marché. Lego Dimension, malheureusement, moi je veux le retour de Lego Dimension. Il y a plein de licences qui n'ont pas été faites, de Flics à Miami, il y a plein de choses à faire.
Je pense que tant qu'il y aura des nouvelles licences cinématographiques, tu pourras avoir des jeux Lego.
Parce que le canevas est là, ça marche bien.
Pour moi, c'est les Telltale du petit jeu d'action. Quoi. C'est pareil. Ils ont une formule, ils varient avec toutes les licences qu'ils peuvent acheter. Et là, c'est la même chose, mais avec Lego. Sauf que c'est toujours rigolo alors que Telltale.
Et c'est rigolo, c'est pas le même public, c'est pas la même prétention. Voilà.
Tu veux pas nous laisser encore un petit quart d'heure pour en
parler? Ouais, c'est ça. Ben non, parce que c'est la fin du programme là. Oui, il va falloir rendre l'antenne, messieurs. Non, mais c'est. Donc Lego. Lego.
Il a à peu près sur tout. Moi, j'aime bien la version Switch parce que du coup, salon et portable, jeu, et ça, c'est chouette.
Allez, c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo et donc la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper quand vous ne jouez pas. Vous faites quoi, Patrick?
Alors, actu cinéma, Predator de Shaun Black, non.
On n'a pas déjà parlé?
Non, je crois pas, non. Bah, pas moi, je crois pas, non.
Ah si, c'est Marius qui en avait parlé. Non, il n'avait pas parlé?
Ah oui, bah oui, si. Mais je crois qu'il en avait parlé. Bon, bah, moi, je l'ai vu.
Il avait plutôt aimé.
Si, t'as raison.
Ouais, c'est non, alors, je vais faire peut-être mon réac avec Predator. Pour moi, Predator, c'est sérieux. Je sais que le Predator original, il y avait des petites pointes d'humour, il y avait des vannes, mais c'était dans un contexte quand même qui rendait le monstre terrifiant. Et on avait quand même un Schwarzenegger qu'on menait pas large. Là, non, il y a trop de blagues, c'est trop léger, ça marche pas.
Donc, pas de Lego Predator, alors.
Remarque, maintenant que tu le dis, ou Lego Alien.
Ouais.
Halloween, par contre, bonne surprise. Bah, je trouve qu'Halloween, il se tient plutôt bien. Et je trouve qu'il s'inscrit en plus dans les 20 ans après, 40 ans plutôt après l'original, 20 ans après le...
Toujours avec Jamie Lee Curtis.
Exactement, qui joue bien le rôle. Je trouve qu'elle joue bien ce côté post-trauma, etc. Le film fonctionne bien. Moi, bien plus que Predator, qui pour moi tourne en pantalonnade. Et la fin, bon sang, Predator, mais on dirait une série télé. Enfin, moi, j'ai bloqué dessus. J'ai vraiment eu beaucoup de mal sur Predator. Halloween, je valide.
Corentin.
Making a Murderer saison 2 sur Netflix. Je sais pas si tu l'as vu, Roman.
Mais non, j'ai pas vu la saison 2.
T'as vu la saison 1?
Oui.
Bon, alors on va peut-être rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Je spoil rien. Évidemment, attends, je connais l'intérêt du truc. Mais simplement, on rappelle peut-être le contexte de Making a Murderer qui parle donc de l'affaire Stephen Avery, Teresa Halbach. Donc c'est un meurtre de Teresa Halbach dans les années 2000 aux États-Unis, dans le Wisconsin. Et en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Stephen Avery qui est accusé de ce meurtre. Et en fait, ce monsieur a déjà été accusé par le passé pour un viol, mais en fait au bout de 8 ans de prison, je crois, il a été acquitté grâce à des traces ADN qui l'ont disculpé. Et du coup, il est mis devant un juge pour est-ce que oui ou non il a tué Teresa Halbach. Et c'est tout l'objet de la saison 1. T'as vu la saison 1, toi, tu m'as dit?
Bah oui, mais peut-être pas des auditeurs.
D'accord. Ouais, mais alors là, ça va être dur de parler de la saison 2.
C'est que tout ne se termine pas à la saison 1.
Bon, il y a des choses qui continuent sur la saison 2. Alors, je vais peut-être simplement dire ceci. Donc, ça continue. Même si vous avez vu la saison 1 et vous vous dites comment il peut y avoir une saison 2, si, largement. Ouais. Notamment sur le fait que cette saison 2 est très intelligente puisqu'elle fait deux choses. La première, elle fait trois choses même. La première, c'est qu'elle elle traite de l'effet de la saison 1 sur le débat, sur le débat aux États-Unis sur le système judiciaire. La deuxième, c'est que c'est une critique du système judiciaire, de comment ça se passe aux États-Unis, pourquoi ça ne fonctionne pas toujours, pourquoi c'est peut-être très lent sur certaines zones du système judiciaire, que je ne peux même pas vous dire ça, sinon je vous spoil la fin de la saison 1. Et la troisième chose, et je pense que c'est Kathleen Zellner qui crève l'écran. Donc c'est la nouvelle avocate en fait de Stephen Avery. Et alors, waouh, elle crève l'écran, quoi. C'est vraiment, ils ont centré toute cette saison 2 sur cette avocate-là qui est spécialisée dans un truc que je peux pas dire, sinon je vous révèle la fin de la saison. C'est très compliqué ce que tu me demandes de faire, Juan. Mais grosso modo...
Mais on va conseiller cette...
On la conseille parce qu'en fait, c'est pas uniquement du fait divers, on va dire. C'est pas uniquement, voilà, de la...
C'est du documentaire narratif.
C'est du documentaire narratif et surtout, on se rapproche de plus en plus du temps présent. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que là, par exemple, Catherine Zellner, qui est donc cette avocate qui va beaucoup témoigner, qui va beaucoup dire ce qu'elle pense de cette affaire, qui va donner tout son processus de réflexion dans la défense de Stephen Avery, elle est sur Twitter. Du coup, je l'ai followée. Du coup, je regarde. Et là, en fait, ça se déroule maintenant. Donc, en fait, je suis un peu partie de l'histoire. C'est cool. Ouais. Moi, non, mais il y a un petit côté vachement sympa de waouh, quelque chose se déroule. C'est très documenté. D'ailleurs, il y a tout un débat aux États-Unis autour de la série, ce qu'elle apporte, son effet sur l'affaire en elle-même. Et puis aussi, toutes les communautés sur Internet qui débattent. Il y a des podcasts entiers sur l'affaire. C'est passionnant. Et le simple fait que, voilà, l'Internet ou le monde de la fiction un peu déborde sur le monde réel, je trouve ça formidable. Et le tout est plutôt bien réalisé. Par contre, ça prend parti. Hein. Le documentaire prend parti, très clairement, je peux le dire, pour Stephen Avery, dans le cas présent. Le documentaire pense qu'il est innocent.
Voilà, il faut Making a Murderer. Hein,
il faut garder ça en tête, parce que notamment, il y a des débats, il y en a qui pensent qu'il est coupable. Et donc, voilà, si vous connaissez l'affaire, que vous dites « Oh non, il est coupable », bon, peut-être que ça va vous hérisser les poils. Mais dans l'ensemble, je conseille, parce que c'est très intéressant, et ça permet d'apprendre plein de trucs sur le système judiciaire américain.
On fait long quand même, on fait une troisième partie d'émission maintenant, hein, c'est fou ça. Moi je vais rapidement, je suis désolé, on va dire que je suis corpo parce que je sais plus si c'est le troisième ou quatrième podcast de Binge Audio que je vais conseiller. Mais là j'ai découvert sur le tard, c'est le Chip c'est quoi? C'est le podcast de pop culture noire qui est animé par donc Mélanie Vanga, Kevin Donna et François Oulac. Et alors c'est la troisième saison, alors c'est assez rigolo parce que c'est la troisième saison et c'est leur troisième diffuseur. L'année dernière, c'était sur Arte Radio et l'année d'avant, c'était sous un autre nom sur un autre site qui, je crois, fermé depuis, je ne suis pas, enfin, machin, mais les épisodes de la saison dernière sont trouvables encore sur Arte Radio. Et en fait, c'est sur le conseil de Quentin qui réalise de temps en temps, cette semaine, c'est Jules Gélaoui, mais donc il y a aussi Quentin qui réalise ça. Et il m'a dit, ah, écoute le Chip, j'ai suivi son conseil, j'ai binge-écouté les trois épisodes, les trois premiers épisodes de cette saison et en fait j'avais vu passer et puis autant Kif Taras par exemple animé par Rokhaya Diallo et Grasse comment dire c'était un truc sur l'antiracisme donc je me sentais concerné enfin c'était des questions que je me pose et voilà mais là le truc de la pop culture noire je me disais c'est super que ça existe mais bon pourquoi moi j'écouterais ça c'est peut-être pas la cible et en fait pas du tout c'est super intéressant d'une part parce qu'il y a une bonne ambiance et un dynamisme dans ce podcast qui est vraiment hyper séduisant. Et puis, c'est une chance qu'on a aujourd'hui. Là, j'ai parlé de mon point de vue en tant que blanc, en tant que dominant, on va dire, de pouvoir prendre la, enfin pas prendre la place, mais parce que ce serait la grosse appropriation de merde, mais de comprendre un point de vue. Situé ailleurs.
En fait, ce que tu dis, c'est que c'est inclusif.
C'est super inclusif. Voilà. C'est super intéressant. Et puis, voilà, on peut comprendre qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être un trentenaire racisé en France, hyperactif et tout ça, mais de comment on perçoit des choses qui apparaissent. Et voilà, et on se pose des questions. On interroge aussi nos modèles. On interroge aussi notre façon d'être. Et c'est super intéressant et c'est super drôle et c'est très, très bien animé. Voilà, je ne peux que conseiller au moins les trois premiers épisodes de cette saison du Chip sur Binge Audio. Voilà. Mais on fait une troisième partie d'émission, en fait, avec ces
c'est sûr.
Bref, on a fait long. Merci à tous. Merci à tous les deux. Merci à Jules d'avoir réalisé cet épisode. Et nous, on se retrouve très vite pour parler de jeux vidéo ici même et sur tous les internets. Ciao.